8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, comment nourrir les villes? 55% de la population mondiale vit en zone urbaine, soit 4 milliards 200 millions de personnes. Et selon la FAO, moins de 10% des légumes sont cultivés dans les villes. Avec la guerre en Ukraine, l'inflation, la question de l'agriculture urbaine est de nouveau relancée. En Afrique, on continue à cultiver des choux, des carottes entre les maisons ou dans des zones non habitables, mais surtout tout autour des villes, dans des ceintures vertes. Mais dans quel jardin urbain cultiver quand le foncier est convoité de toutes parts? Quelle solution aussi pour atteindre plus d'autonomie alimentaire, réduire les distances parcourues du champ à l'assiette? L'agriculture urbaine doit aujourd'hui répondre en fait à plusieurs défis. D'abord, c'est vrai, il y a l'étalement des villes sur le continent africain, le réchauffement climatique, les inondations et le manque d'eau, ça vous connaissez, l'emploi des jeunes aussi. Alors les voisins, les voisines, on attend vos témoignages de maraîchage. Dans votre ville, dans votre quartier, si l'agriculture urbaine est menacée ou au contraire en renaissance, appelez-nous dès maintenant, vos témoignages nous intéressent. Le compte WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Christine Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'agriculture urbaine, vous êtes agronome à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, c'est l'INRAE, et également à AgroParisTech. Et vous avez publié un livre sur les agricultures urbaines en France aux éditions Coaé, et vous préparez un livre sur les agricultures urbaines sur le continent africain que vous connaissez bien, notamment le cas de Madagascar. On sera aussi en ligne, nous sommes aussi en ligne avec Abouba. Bonjour Abouba.
Bonjour.
Vous travaillez sur l'agriculture urbaine avec les systèmes et sur les systèmes alimentaires dans une ONG canadienne qui s'appelle Soco Devi et vous êtes basé à Dakar et vous avez également publié Agriculture urbaine à Dakar, eau et impact sur la santé aux éditions universitaires européennes. On sera aussi en ligne tout à l'heure en Afrique du Sud avec notre correspondante Claire Bargelès qui nous parlera du retour des potagers dans les grandes villes pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et puis en fin d'émission, l'Afrique qui gagne, vue par Lidvine Balouacha, qui est agronome béninoise. Et son portrait est à retrouver également en podcast dans la série Afrique qui gagne. Elle a lancé sa propre exploitation agroécologique avec des pratiques agricoles qui se veulent respectueuses de l'environnement. C'est au cœur aussi de notre sujet du jour pour nourrir, entre autres, les habitants de Cotonou.
Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
8 milliards de voisins,
on n'est rien sans l'autre.
Et des messages de nos auditeurs fidèles qui est étudiant à Mora au Cameroun, à proximité de la frontière avec le Nigeria. C'est une ville de plus de 60 000 habitants. Il nous dit que l'explosion des prix des denrées alimentaires devient de plus en plus un problème majeur au quotidien. On est obligé de se pencher vers les légumes produits localement, gombo, feuilles d'oseille et d'autres feuilles vertes qui coûtent moins cher. Ghislain est à Cotonou. Lui nous dit malheureusement, moi j'ai pas d'espace pour me faire un petit jardin, je suis en appartement. Si j'avais de la place, j'aurais cultivé mes propres légumes parce que tout est devenu super cher. Même les légumes locaux ont augmenté, sont vendus parfois à des prix plus élevés que les légumes importés d'Europe. Ça peut sembler tout de même assez surprenant, Christine Aubry, des légumes produits localement dans une ville qui sont plus chers que des légumes importés.
Oui, alors ça, je pense que c'est d'abord un effet d'opportunisme, hein, probablement assez lié à la situation actuelle, parce que tout permettrait que ces légumes soient moins chers.
Ouais. Bon, il y en a qui en profitent.
Absolument. Hein,
peut-être. Et qui stockent ou qui font gonfler les prix artificiellement. Ibrahim est à Dosso, une ville secondaire dans une région d'élevage au Niger. Il nous dit, moi j'ai une parcelle où je cultive de la salade, des carottes, des tomates, des feuilles de moringa et je fais aussi pousser du manioc que je transforme ensuite en gari, en une semoule fine ou en tapioca que l'on réutilise pour nos préparations et nous cultivons dans nos champs non habitables. Loin des maisons, la croissance est plus élevée. Ça veut dire probablement que le sol est de meilleure qualité. Beaucoup de nos auditeurs auditeurs à travers leur message quand même lient le problème de l'agriculture urbaine au problème de l'inflation. C'est comme si tout d'un coup le sujet devenait beaucoup plus réel avec l'inflation et l'augmentation des prix. Christine Aubry.
Oui, alors je pense que c'est un phénomène qu'on voit à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on le voit aussi chez nous, hein, en Europe de l'Ouest et en France en particulier. Ça ne veut pas dire que l'agriculture urbaine, bien sûr, date de là, elle est bien antérieure. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est face à une contrainte, effectivement, de prix, et notamment du prix des fruits et légumes, qui fait que voilà, l'avantage comparatif d'avoir de l'agriculture à proximité est mis en avant. Et ça, vraiment, c'est un phénomène, encore une fois, mondial. Et moi, je m'en réjouis parce qu'enfin, ça permet de se rendre compte de l'importance de cette agriculture.
Mmh. Abouba, vous entendez la même chose aussi à Dakar. La flambée des prix, tiens, l'agriculture urbaine n'est pas seulement un gadget.
Ben oui, effectivement. Aujourd'hui, les consommateurs sont conscients que plus ils importent de produits, plus c'est cher avec les crises mondiales qu'on ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, des gens au Sénégal, beaucoup de plus, on a des circuits courts qui offrent des produits locaux qui sont relativement chers par effet d'opportunisme, mais également parce que aussi le coût d'investissement est cher.
Je vous lis aussi le message d'Étienne Agoma qui est en RDC. On essaie de trouver des alternatives face à la montée des prix en remplaçant la farine de blé par la farine de manioc par exemple. Il faut se tourner vers nos richesses locales si on veut subvenir à nos besoins. Pour ma part, nous dit Étienne, j'ai un bout de parcelle en périphérie de la ville où l'air est moins pollué. Et puis je vous lis aussi le message d'Ibrahima qu'on n'arrive pas à joindre et qui voulait témoigner de Banjoul en Gambie. Je cultive des tomates dans la capitale gambienne, des piments, des feuilles de patates dans la cour de mon jardin. On a une concession commune, chaque voisin a un bout de parcelle. Mon terrain fait environ 75 mètres carrés. On a de la chance d'avoir un forage dans notre quartier parce que évidemment ça donne une facilité d'accès à l'eau. Je préfère cultiver moi-même parce que dans les jardins qui sont situés dans l'espace public, l'eau me semble souvent souilleuse ou porteuse de maladies. 75 mètres carrés en pleine ville ou tout près d'un centre-ville, ça devient un espace viable pour cultiver pour sa propre famille, Christine Aubry.
Alors, bien sûr, ça dépend des conditions pédoclimatiques locales. Hein. Mais c'est vrai que même en Europe, on considère qu'autour de 100 mètres carrés d'un jardin collectif, par exemple, ou d'un jardin privé, on peut commencer à avoir une production relativement importante. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, 75 mètres carrés pour quelqu'un qui veut produire pour lui-même ou vendre un peu.
Vous nous appelez les voisins, les voisines. On parle de l'agriculture urbaine aujourd'hui. Comment nourrir les villes dans le contexte de l'étalement urbain, de la croissance de la population urbaine et de la flambée des prix? Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Pour c'est parler.
C'est une émission pour tous les voisins et tous les voisines.
8 milliards de voisins, voisines. Construisons la vie ensemble.
Christine Aubry, aujourd'hui, quelle est la tendance mondiale? Est-ce que ce sont globalement des villes qui sont en permanence perfusées aux importations de nourriture lointaine, ou est-ce qu'on assiste à un renouveau de l'agriculture urbaine et des ceintures vertes aussi autour des villes?
Alors je dirais qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a un véritable renouveau, alors qui ne date pas que de la crise actuelle, inflationniste, etc., qui date déjà d'avant, mais surtout de pendant et juste après, la crise sanitaire de 2020, qui a été un peu un révélateur. Mais déjà bien avant, on voit qu'il y a un double discours, en fait, dans les villes, et il y a une double réalité. À la fois, toujours une très forte dépendance dans la plupart des villes, surtout les plus grosses, à des importations, et ça à l'échelle mondiale, mais une tentative croissante de créer de l'agriculture dans la ville, et surtout autour, avec ces fameuses ceintures vertes. Et ce que l'on voit, enfin, je prendrai par exemple l'exemple de Madagascar, que je connais un petit peu moins mal que les autres, on va dire. On a vu, il y a une thèse qui a été soutenue là-dessus en 2020, on a vu effectivement cette capitale de Madagascar doubler de population en 20 ans, augmenter très fortement son étalement urbain. Alors c'est difficile de quantifier ça, mais on n'est pas loin aussi peut-être d'un doublement de surface hein, par rapport à la commune urbaine d'Antananarivo telle qu'elle était au début du siècle. Et par ailleurs, l'agriculture urbaine continue approvisionner entre 70 et 4, voire même 100% pour certains produits. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est développée sur d'autres espaces.
Ça veut dire que c'est ça, quand la ville s'étale, les parcelles reculent.
Les parcelles reculent, mais pas forcément que. Il y a beaucoup d'espaces vacants au sein de ces extensions urbaines. C'était d'ailleurs le sens, je pense, de certaines interventions de nos auditeurs juste avant. Donc, il peut y avoir des petites parcelles de 70-100 mètres carrés qu'on peut arriver à récupérer quelque part. Et puis, il y a aussi de la conquête de nouveaux espaces. Je pense que Abou nous parlera notamment à Dakar des espaces sur les toits. Alors ça, c'est pas facile partout, hein, mais ça peut effectivement constituer un nouvel espace.
Alors, on en parle aussi beaucoup dans les pays développés.
Dans les pays développés,
mais,
tout à fait.
Mais dans les pays développés, par exemple, même si tous les espaces disponibles étaient cultivés, en admettant, ça resterait complètement marginal.
Alors, ça resterait marginal, ça dépend là aussi, bien sûr, des endroits, mais par exemple, prenons Paris, hein, puisqu'on est, on est sur Paris. Si on arrivait à cultiver tous les toits plats de Paris, on n'est pas la ville qui en a le plus, hein, clairement, on serait à moins de 10% des quelques 90 000 tonnes de fruits et légumes qu'il faut chaque année.
Et dans une ville comme Montréal, par exemple.
Alors, dans une ville comme Montréal, il y a un peu plus d'espace. Hein, mais alors, bon, je laisserai peut-être Abou aussi préciser la chose. Donc, on sera peut-être à un peu plus de 10%, mais aux alentours de ça. C'est-à-dire qu'on est toujours, de toute façon, sur des quantités relativement faibles. Mmh. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est bien l'agriculture juste autour des villes. Hein, donc, l'agriculture qu'on dit périurbaine, qui doit, que ce soit au nord ou au sud d'ailleurs, plus s'orienter vers la consommation urbaine.
Une agriculture périurbaine qui, ceci dit, est grignotée en permanence par le foncier, par l'immobilier, les appétits des promoteurs immobiliers, que ce soit pour construire des centres commerciaux, des logements, etc. Abouba, à Dakar, si je vous dis Montréal versus Dakar, qu'est-ce que vous diriez sur l'agriculture urbaine ?
Ah, oui, ce serait un exemple, deux exemples un peu antagonistes parce que à Dakar, l'agriculture urbaine perd beaucoup plus la ville, a beaucoup plus d'impact économique sur les communautés, sur la ville qu'à Montréal, alors qu'à Montréal, on développe beaucoup plus de politiques en faveur de cette agriculture urbaine-là. À Dakar, il n'y a pas de politique en faveur de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine pâtit des politiques publiques qui font que chaque jour, on a des pertes de terres, même s'il y a des stratégies de repli des producteurs pour trouver de nouveaux espaces. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que Dakar est à 97% urbanisé, ce qui fait que les petites zones qui restaient et des zones qui étaient des zones non habitables, qui étaient destinées à la pratique agricole, sont grignotées. Et l'exemple pour le prouver, c'est juste la nouvelle ville de Diamniadio.
Diamniadio, qui est une, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui semble vraiment une ville posée au milieu de zones désertiques, ce qui n'était pas le cas avant.
C'est ça, et qui est une zone par excellence agricole. C'était des zones à perte de vue de production maraîchère, qui aujourd'hui est devenue urbaine. Et malheureusement, si on compare Dakar par rapport à Montréal, on dirait que à Montréal, les autorités ont compris l'importance de faire une politique d'agriculture urbaine pour la sécurité alimentaire des villes. Malheureusement, à Dakar, les populations bénéficient de cette production agricole-là, mais les pouvoirs publics ne semblent pas avoir compris l'importance d'établir une politique en faveur de cette activité.
Et pourtant, Dakar, c'est quoi ? C'est l'essentiel de la demande de nourriture dans le pays.
Oui, à Dakar, on constate que l'agriculture, la production maraîchère fournit 60% de la demande en légumes de la région de Dakar. Et sur tout le pays national, ça fait environ 40% de la demande du pays. Et ça ne s'arrête pas seulement au niveau du maraîchage. Si on prenait l'agriculture urbaine, ce serait pareil.
Oui. Mais alors, dans ce contexte, comment subsiste concrètement l'agriculture urbaine ? Est-ce que on a du petit maraîchage sur des toutes petites parcelles non habitables ? On parle régulièrement des inondations dans les banlieues de Dakar. Est-ce que, du coup, ça profite quelque part à un reste d'agriculture urbaine ou à un renouveau d'agriculture urbaine ?
Carrément, si on prend les statistiques disponibles de 2014 à 2015, on a noté une augmentation de surface agricole cultivée à Dakar. Mais ça, c'est seulement l'arbre qui cache la forêt. À Dakar, la production agricole se fait d'abord en intra-urbaine. Il y a beaucoup de poches à l'intérieur de la ville de Dakar où les producteurs font de la production agricole exclusivement, principalement, c'est de la laitue c'est des légumes à feuilles qui sont produits en milieu intra-urbain à Dakar. Maintenant, en zone périphérique...
Quand vous dites en milieu intra-urbain, dans quel quartier?
Exemple, dans le quartier de Al-Narif, dans le quartier de Wakam à Mermoz, et même quand on prend le quartier de la Médina, il y a des poches le long des axes routiers que les populations utilisent pour faire cette activité agricole-là.
Oui, mais alors c'est vraiment des toutes petites poches parce que c'est quand même bien dense. Hein.
Voilà. Par contre, si on sort un peu à Dakar, ça fait partie du département de Dakar, la zone du Technopôle, la zone de la Padoua, c'est la principale zone maraîchère de Dakar, entre Cambérène et Anne et Padoua. Mmh. C'est vraiment la zone par excellence qui est une zone qui jouxte un lac naturel où l'habitat n'est pas permis.
Et là, c'est bien des cultures dans le sol, hein, pas hors sol.
Oui, c'est des cultures dans le sol, des cultures sur de petits périmètres environ qui varient les 70 à 100 mètres carrés par producteur sur des planches de production.
Ouais. Si on prend la région de Rufisque, par exemple.
Oui, la région de Rufisque, il faut dire que la région de Rufisque...
Qui est une ville, en fait, maintenant, qui touche pratiquement Dakar, hein, du fait de l'étalement urbain de Dakar.
Oui, c'est devenu une conurbation entre Dakar et Rufisque. Mais Rufisque est le département qui est le plus accueille la zone rurale de la région de Dakar. Et à Rufisque, c'est la principale zone, si on prend le site agricole le plus grand de la région de Dakar, se trouve à Rufisque, à savoir la zone de Lendeng, qui est une zone qui fait environ 45 hectares, mais qui est menacée par une industrie cimentière qui est là, à savoir la Sofocim.
Oui,
à côté également, il y a des lotissements qui sont faits. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver à l'intérieur du site de production de Lendeng des fondations de villas déjà construites et les producteurs cultivent à l'intérieur.
Ah oui, oui, on voit quand même bien la pression immobilière de toutes parts qui pèse très fortement sur cette agriculture urbaine, Christine Aubry.
Oui, tout à fait. Alors ça, on le retrouve effectivement partout, mais on retrouve en même temps, et c'est ça qui est absolument passionnant dans ce phénomène-là. Je vous parlais, je connais un petit peu le moins que Abou, bien sûr, la région de Dakar, mais c'est vrai que, par exemple, à Antananarivo ou dans d'autres villes, on voit aussi beaucoup des zones périurbaines se réagricoliser. Par exemple, autour d'Antananarive, on a vraiment un développement du maraîchage sur des collines qui étaient autrefois des zones de parcours d'élevage. Mais autrefois, il y a 20 ans, hein, donc c'est quelque chose d'assez récent. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que le maraîchage, même si bien sûr, c'est surtout les légumes qui sont visés dans l'agriculture urbaine, mais il y a aussi beaucoup d'élevage, petit élevage.
C'est-à-dire les poulets et les œufs. Hein.
Poules pondeuses ou poulets. Et par exemple, à Dakar, mais dans plein d'autres villes africaines, c'est un phénomène absolument majeur. Hein. On est à 90% de production locale. Hein.
Quelle est la productivité de l'agriculture urbaine par rapport à une culture en plein champ? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est très...
Ça peut être même supérieur, parce que ce qui va déterminer la productivité, ça va être bien sûr l'accès d'abord à l'eau et aux intrants, mais des intrants, on peut en avoir, notamment des engrais organiques à travers les déchets organiques urbains. Ils sont très utilisés en Afrique par récupération. Hein. C'est pas encore très organisé, malheureusement. Et puis, on peut avoir aussi beaucoup de travail humain. C'est-à-dire qu'on a souvent des surfaces qui sont finalement aussi, voire bien plus productives que de l'agriculture rurale.
C'est ça, toutes petites mais très entretenues, très soignées finalement.
Et finalement relativement intensives en production.
Emmanuel.
Oui, Abouba, oui.
Pour revenir juste sur ce qu'a dit Christine par rapport à aux autres activités agricoles d'agriculture urbaine, il faut dire que grâce à l'implantation de l'élevage, ça permet encore plus le développement des activités maraîchères parce qu'il y a un échange de ressources.
Et oui, ça provoque du fumier pour enrichir le sol. Ouais.
Tout à fait.
Si on s'éloigne de la productivité et du fait que, bon, bien sûr, l'agriculture urbaine, c'est pour mettre quelque chose dans nos assiettes, mais en dehors de ça, à quoi servent les fermes urbaines en dehors de produire des fruits, des légumes, des œufs et des poulets à Bouba?
Il faut dire que ça, Christine vous le dira, l'agriculture urbaine est une activité multifonctionnelle. Et au-delà du caractère d'approvisionnement alimentaire, ça permet la réduction des îlots de chaleur en ville. Et aujourd'hui, quand tu connais Dakar, en sillonnant les quartiers de Dakar, en allant des quartiers où il y a des périmètres maraîchers à d'autres qui en sont dépourvus, on constate le changement du microclimat que l'on observe. En même temps, grâce aux périmètres maraîchers qui existent dans toutes les villes, ça participe à la réduction des inondations que nous connaissons depuis longtemps ici au Sénégal. Et au-delà de ça, il y a tout son apport dans le cadre de vie, parce qu'on est dans une ville qui est dépourvue de système d'assainissement collectif, qui est dépourvue de système de ramassage bien organisé, et le fait que les populations, les deux activités, le maraîchage puisse utiliser des sous-produits de l'élevage, participent également à l'amélioration du cadre de vie.
Ça veut dire que paradoxalement, finalement, l'agriculture urbaine peut contribuer à réorganiser la ville et à rééquilibrer l'informalité de la ville, d'une certaine manière, Christine Aubry.
Oui, tout à fait. Je pense que ce triptyque-là, de l'intérêt de l'agriculture urbaine au-delà de l'alimentation directe de la ville, c'est bien autour de la réduction des îlots de chaleur, de l'eau, de la régulation de l'eau, et puis de la valorisation des déchets organiques urbains. Ça, je pense que ça, on le voit partout, avec bien sûr des poids différents selon les régions. Et je pense que c'est ça qui va faire que demain, l'agriculture urbaine sera un incontournable du développement des villes.
Ça reste à démontrer, en tout cas, pour les décideurs politiques.
Ah bah, clairement,
on va en reparler. À Abouba, par exemple, vous avez mené des enquêtes sur des producteurs agricoles en agriculture urbaine. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur leurs revenus mensuels?
Et ce qu'on constate, c'est que à Dakar, les producteurs maraîchers de Dakar et des départements de l'Ouest, quand on a évalué le revenu qu'ils gagnent, le revenu d'un maraîcher est 7 fois supérieur au revenu moyen d'un Dakarois et 3 fois supérieur au salaire moyen d'un fonctionnaire.
Ah oui, un maraîcher à Dakar, dans la région de Dakar, donc.
Oui. Sur 214 producteurs interrogés à Dakar, Pikine et Rufisque, ce sont ces résultats-là que nous avons obtenus.
Alors que cette agriculture urbaine a finalement tout le temps une image de création de, disons, sortir de la pauvreté les plus pauvres, et une image finalement assez rétrograde. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous continuez bien sûr de nous envoyer vos messages, les voisines et les voisins. Si vous-même vous pratiquez du maraîchage, dans votre cour, dans votre quartier, si vous avez rejoint un réseau de fermes urbaines, bien sûr, vous pouvez nous appeler 33 7 64 45 51 41. Et puis dites-nous si chez vous, l'agriculture urbaine est menacée ou au contraire, en renaissance. On attend vos témoignages. Ça sera juste après Denis, la chanteuse Afrofusion nigériane.
I want your love, 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 more.
Vous écoutez RFI, c'est 8 milliards de voisins, comme chaque matin, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'agriculture urbaine. Concrètement, comment nourrir les villes, si on prend le continent africain, 600 millions de citadins à l'heure actuelle à nourrir, 760 millions en 2030. 2030, c'est vraiment demain. Et on va prendre maintenant le cas de l'Afrique du Sud. Alors, la question de l'accès aux terres reste brûlante en Afrique du Sud et les grandes métropoles continuent de s'étendre. Des potagers voient régulièrement le jour au cœur des villes, comme à Johannesburg, dont l'aire urbaine concentre quand même entre 6 et 8 millions d'habitants. Claire Bargelès, vous êtes notre correspondante sur place. Bonjour.
Bonjour.
Il n'est pas rare désormais donc de trouver des potagers avec des légumes dans les rues du centre économique du pays, avec des cultivateurs qui n'ont pas tous les mêmes objectifs d'ailleurs.
Oui, même si la ville de Johannesburg est plus connue sous son surnom de Cité de l'Or, c'est désormais une nouvelle richesse d'une autre couleur que certains habitants entreprennent de cultiver avec de la verdure et des légumes qui émergent entre deux pans de bitume. Certaines initiatives sont concertées, chapeautées par des organisations et à la pointe de la technologie. C'est par exemple le cas de ces fermes installées en hauteur sur les toits des immeubles ou des grands magasins. Plusieurs projets ont vu le jour avec des serres utilisant les techniques de l'hydroponie, soit une culture hors sol qui n'a pas besoin de terre. Un système qui permet parfois d'être directement en contact avec les acheteurs, puisque des restaurants se trouvent bien souvent dans les bâtiments qui proposent leur toit ou dans les rues adjacentes. Mais on a aussi d'autres cultures urbaines qui sont nées de façon spontanée. Sur les plates-bandes des trottoirs, des banlieues ou des townships, il n'est pas rare désormais de voir apparaître des oignons ou des pommes de terre cultivées par quelques habitants du quartier. L'usage est cette fois-ci pour une consommation directe, ce qui représente la plus grande majorité des cas à Johannesburg, ou bien pour des soupes populaires, alors que plus de 10 millions de Sud-Africains sont en situation d'insécurité alimentaire avancée.
Et la pandémie de Covid-19 a davantage révélé la précarité de la situation alimentaire des plus pauvres, Claire ?
Oui, vos invités l'ont dit tout à l'heure, la pandémie a été un révélateur et selon l'Agence des statistiques sud-africaines, le taux de personnes en insécurité alimentaire dans le pays est passé de 17 à 23% entre 2019 et fin 2020. En cause, bien sûr, les différents confinements et le taux de chômage qui s'élève à plus de 30%. De plus, ces fléaux touchent les citoyens de façon très inégalitaire puisque les populations noires et les zones des bidonvilles sont de loin les plus frappées. Alors bien sûr, les potagers urbains à eux seuls ne peuvent pas répondre à la question de l'insécurité alimentaire. Ça reste encore un mouvement à très faible échelle et en raison de leur petite taille, ils ne peuvent avoir qu'un effet limité. Ce n'est donc pas la solution miracle et le pays doit déployer des politiques publiques de beaucoup plus grande envergure pour répondre à la faim. Mais en temps de crise économique, ces potagers urbains peuvent apporter un complément et de la variété dans l'alimentation, alors que la majorité du régime alimentaire des Sud-Africains les plus démunis repose sur des féculents et de la nourriture transformée, riche en sucre et pauvre en nutriments. De plus, ces plantations urbaines peuvent aussi créer une activité informelle, comme ce fut le cas dans les townships pendant la pandémie.
L'agriculture urbaine peut donc être bénéfique, mais les jardiniers en herbe sont aussi confrontés à certains problèmes dans leurs efforts.
Alors, première difficulté relevée par différents chercheurs sud-africains, beaucoup d'entre eux ne produisent pas comme ils devraient à cause d'un manque de formation ainsi que de capital pour acheter du matériel. Sans compter que l'utilisation des terres se heurte parfois à la politique de la ville et à des visions très divergentes de la gestion des espaces. Dernier exemple en date ici, en juin dernier, la Bertram's Farm, une ferme urbaine développée depuis plus de 15 ans par une passionnée de 63 ans en plein cœur de Johannesburg, a été rasée. La ville, dirigée par le parti d'opposition de l'Alliance démocratique et qui possède le terrain, veut y construire un centre social flambant neuf qui comportera, ironie de l'affaire, un nouveau projet de ferme urbaine construit à partir de zéro. Dans la ville voisine de Pretoria, un homme s'est lui aussi heurté au pouvoir public, surnommé le Cabbage Bandit, soit le bandit des choux. Il a dû, en 2021, payer une amende et comparaître devant la justice pour avoir fait pousser des légumes sur le trottoir. Les poursuites ont finalement été abandonnées et John Kuna, de son vrai nom, est devenu un symbole de l'agriculture urbaine. Alors, suite à cette affaire, le président Cyril Ramaphosa, en personne, a promis de tout faire pour que les espaces de la ville où peuvent pousser des légumes soient désormais libres d'accès.
Merci beaucoup Claire Bargelès, en direct de Johannesburg. Christine Aubry, vous êtes ingénieure agronome, vous êtes agronome. Abouba est en ligne avec nous aussi à Dakar, spécialiste de l'agriculture urbaine. Est-ce que l'Afrique du Sud peut constituer un exemple à suivre, Abouba?
Bon, dans un certain plan, pour l'élaboration d'une politique en faveur de l'agriculture urbaine, oui, parce que comme a dit votre correspondante, la ville commence à comprendre les enjeux et à mettre du nez. Et que les potagers urbains verticaux, ce serait difficile à Dakar. Mais là où l'Afrique du Sud peut vraiment être un exemple, c'est dans la sécurisation des zones de production actuelles pour qu'elles demeurent des zones de production maraîchère.
Oui. Sécurisation, en même temps, pas tant que cela, hein, Christine Aubry, puisqu'on l'entend, même quand il y a une zone de maraîchage, elle peut être rasée à oui. tout moment pour un autre projet.
Voilà, tout à fait. Et ça, on le voit partout, y compris, bien sûr, en Europe du Nord et aux États-Unis ou au Canada, cette espèce de schizophrénie qu'ont les dirigeants, notamment locaux, par rapport à la fois à la nécessité de développer l'agriculture urbaine, qui a toujours été une réponse aux crises dans le monde entier, depuis les deux premières guerres mondiales jusqu'à Détroit, Cuba, enfin on connaît tous ces exemples-là. Et puis cette volonté aussi d'en finir avec elle, comme si elle était une marque de pauvreté ou une marque infamante. Bon, moi je partage aussi le doute un peu d'Abou sur la possibilité de développer des formes très technologiques sur notamment dans les villes africaines. En ces temps de sobriété énergétique, c'est pas forcément quelque chose qui soit souhaité partout. Mais par ailleurs, je pense que l'Afrique du Sud effectivement est intéressante par rapport à ce développement des potagers urbains dans les townships. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on voit un peu partout, mais là, comme le disait Abou, là, les orientations politiques et la possibilité d'avoir une vraie politique de soutien à l'agriculture urbaine, j'espère que c'est quelque chose qui va venir un peu dans toutes les villes.
Parce qu'il y a une demande aussi de la population qui est très nette. Alors justement, on vous donne la parole, les voisins, les voisines, si vous avez des projets de maraîchage dans votre ville, au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Aliou qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Aliou.
Bonjour Emma. Bonjour à vous, les invités. Invités.
Aliou, vous souhaitez commencer à cultiver une petite parcelle à Cotonou, mais vous vous posez des questions, c'est ça?
Et bien sûr. Bon, la question que je vous pose, c'est pas pour combattre la question de la pollution et du réchauffement climatique, puisque il n'est pas. Je constate à Cotonou, j'ai remarqué. Bon, je remarque à Cotonou que n'importe quel terrain abandonné, c'est le champ de culture. Mmh. Il y a énormément de zones au cœur du centre-ville où je vois des tomates, de la salade. Donc, moi-même, je compte commencer à planter mes propres légumes pour raisons économiques. Mais je suis un peu dubitatif sur le fait de cultiver en ville avec les phénomènes de pollution, de dégradation et de la couche d'ozone.
D'accord. Donc, vous vous posez la question sur la qualité du sol et de l'air qui pourrait affecter la qualité nutritive des légumes que vous mettriez dans l'assiette. Mais vous-même, par exemple, vous êtes formé pour cultiver ou pas? Est-ce que vous avez des parents, des grands-parents qui ont cultivé?
Bon, c'est mon grand-papa de toute la Deuxième Guerre mondiale. Il était forestier, mais il avait du séchant. Ouais. Mais moi-même, sincèrement, j'ai fait les sciences juridiques. Bon. J'y vais pas au champ en tant que tel.
D'accord. Donc, il faudrait effectivement recevoir une formation par des voisins, peut-être. Merci. Merci à Liu, en tout cas, de poser cette question, parce que c'est vrai que ça a été énoncé aussi par d'autres auditeurs dans des messages que j'ai lus au début de l'émission. La qualité du sol, la qualité de l'air. On a des auditeurs aussi qui nous ont posé des questions à Kinshasa, où l'eau aussi est fortement polluée. C'est un vrai problème pour l'agriculture urbaine et pas seulement en Afrique.
Alors, oui, absolument. C'est un vrai problème. Donc, il faut vraiment l'affronter. Alors, c'est un vrai problème, ça ne veut pas dire que c'est pollué partout, qu'on ne peut rien faire et que ça serait une fausse bonne idée. Ce n'est pas du tout ça. Là où c'est un important de se poser la question, c'est de savoir effectivement sur la première ressource qui est le sol, dans quel sol on est et est-ce qu'on peut éventuellement amender ce sol, notamment avec des résidus d'élevage dont on a parlé tout à l'heure, pour en particulier avoir une plus forte taux de matière organique qui permet de contenir aussi parfois les pollutions. La question de la pollution de l'eau est souvent plus embêtante dans les pays africains parce que il n'y a pas forcément de tout à l'égout, de choses comme ça. Donc, à la fois les pollutions chimiques, mais les pollutions aussi bactériologiques peuvent exister. Donc, je dirais que quand on peut arriver à récupérer de l'eau, à la stocker, quand on peut arriver à avoir accès à des nappes en faisant des forages, c'est pas forcément gagné parce que, comme l'a dit l'auditeur, le réchauffement climatique fait que, par exemple, les puits s'assèchent plus vite. Là, c'est quelque chose qu'on voit maintenant très nettement. Mais ça peut permettre de, quand même, sécuriser un petit peu la qualité de la ressource en eau. Moi, je pense que là aussi, il y a tout un travail à faire de la part des collectivités locales pour pouvoir qualifier ces ressources. Il ne s'agit pas uniquement de quantifier le nombre d'hectares, mais aussi de savoir quels sont ceux qui sont de bonne qualité et de pouvoir aussi, prendre un certain nombre de mesures contre personnes qui se permettent d'utiliser les ressources d'eau ou de sol un peu n'importe comment dans les villes africaines.
Qualifier les parcelles, ça veut dire préserver des espaces aussi non bétonnés. Abouba, vous, comment vous voyez l'avenir de l'agriculture urbaine dans votre pays, au Sénégal?
Oui, je pense que pour revenir à l'auditeur précédent, la question des contaminants en milieu urbain, surtout en milieu urbain africain, est réelle. Mais heureusement, ce n'est pas toutes les zones qui sont contaminées, soit à cause des décharges sauvages où il y avait des ordures dangereuses ou bien des déchets dangereux. Mais c'est une question qui est là, qu'il faut étudier et caractériser les types de sols sur lesquels on peut pratiquer les activités agricoles.
Est-ce que vous pensez, Abouba, que ça pourrait bien arranger certains élus locaux aussi de dire que les sols sont de mauvaise qualité parce qu'on est en zone urbaine et qu'il n'y a rien à espérer de l'agriculture urbaine? Parce que c'est vrai que c'est tellement formidable d'espérer continuer à faire grossir la ville avec des logements, avec des centres commerciaux. C'est aussi beaucoup plus lucratif pour des autorités locales.
Oui, il est clair qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons au Sénégal, prendre une parcelle de terre et la mettre en valeur pour l'habitat, c'est ce qui rapporte le plus. Et même les pouvoirs publics, les pouvoirs des collectivités locales pensent dans ce secteur-là. On n'a pas une analyse, une planification globale du développement de nos collectivités territoriales pour prendre en compte l'importance de l'agriculture urbaine, non seulement pour l'approvisionnement alimentaire, mais pour toutes les fonctions que remplit cette agriculture-là. Aujourd'hui, revenant à l'avenir de cette agriculture à Dakar, je pense qu'elle existera toujours, la pratique agricole à Dakar, mais s'il n'y a pas un plaidoyer pour une mise en place d'une politique en faveur de l'agriculture urbaine, les espaces vont diminuer davantage et même la production, la main-d'œuvre qualifiée pour faire cette activité-là risque de disparaître parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dedans, mais si à côté, il n'y a pas une
volonté politique. Oui, évidemment, ça ne pourra pas déboucher sur réellement un développement économique du maraîchage urbain. Vous restez avec nous, Abouba, Christine Aubry. Dans quelques instants, on termine l'émission avec un portrait de notre série L'Afrique qui gagne, et toujours au cœur de notre sujet d'ailleurs, parce que Lidvine Balouetcha est une agronome béninoise qui a monté un réseau de fermes urbaines. Et ça sera juste après le groupe sahélien BKO avec la chanson Bamako.
Bye.
de voisins sur RFI. L'Afrique qui gagne, vue par Lidvine Balouacha, agronome béninoise de 35 ans. Elle a lancé sa propre exploitation agroécologique pour nourrir entre autres les habitants de Cotonou. Et notre reporter Charlie Dupiot l'a rencontrée à l'occasion de son passage à Paris. C'était en novembre dernier dans le cadre du festival alimentaire, justement sur l'alimentation durable et solidaire.
Je suis née au Bénin, Porte-Nouveau, la capitale politique du Bénin. Au total, j'ai au moins 5 frères et sœurs. Je suis la Benjamine de la famille. Ton premier mari, c'est ton travail. Le mari peut te laisser à tout moment. Or, si tu travailles bien, le travail ne pourra jamais t'abandonner. Donc, tu dois tout faire pour avoir un bon diplôme.
Qui c'est qui vous disait ça?
C'est ma maman qui me disait ça tout le temps. Ah, c'est une dame très forte parce que j'ai perdu mon papa très tôt. À l'âge de 13 ans, elle nous a gardés tous, nous les 7. Et nous sommes tous allés dans les universités. On a tous eu le bac plus 5. Mon papa travaillait au trésor public. Mais ma maman, elle est artisan. Elle a un grand centre de perfectionnement en haute couture où elle forme beaucoup d'élèves. Elle s'est investie vraiment pour moi parce qu'à la fac, là, pour faire une année d'agronomie, là, c'est au moins 450 000 francs CFA.
C'est l'équivalent de 700 euros.
700 euros par an. Donc, ma mère s'est vraiment échinée. Elle me l'a payé pendant 5 ans. Pour que j'aie ce diplôme de master en agroéconomie, elle a vraiment investi pour ça.
Vous avez grandi en ville avec des parents de classe plutôt aisés. Qu'est-ce qui vous a mené à l'agriculture?
Donc, mon père, en tant que fonctionnaire d'État, il avait une grande exploitation. Et il transformait le manioc en garri, en tapioca. Et je me rappelais même qu'à l'époque, là, quand j'allais au cours primaire, je prenais même de la garri, du tapioca que je mettais dans ma poche pour aller. Il disait toujours que la terre ne mange jamais. La terre nourrit toujours son homme quand tu la gardes précieusement. Ça m'a inspirée. Donc je me dis, mais si tu te lances dans ce métier-là, tu vas bien te nourrir, nourrir bien ta famille et avoir de l'argent sur toi.
Comment vous avez appris la terre, puisque vous n'étiez jamais allé dans des champs?
Oh là là, dans notre cursus universitaire, chaque année, tu dois aller au champ. Vous faites un stage d'immersion d'un mois, c'est-à-dire quoi? Les enseignants, ils prennent les bus et ils nous déposent dans des villages. Vraiment très reculés de la ville. Tu prends la roue, le coupe-coupe, là, c'est rudimentaire. Et là, tu pars au champ le matin et tu reviens le soir. Quand je suis sortie de la faculté des sciences agronomiques en 2016, je me suis alliée au réseau Djinoukou, Copagène. C'est une coalition pour la promotion et la valorisation des semences locales. Parce que ces semences aujourd'hui sont plus résilientes au changement climatique. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à connaître l'agroécologie. Parce qu'en mon temps, quand on nous avait enseigné les cours à l'université, il n'y avait pas l'agroécologie, c'était l'agriculture conventionnelle. Mais c'est dans ce réseau que j'ai pris les connaissances en agroécologie. L'agroécologie, c'est zéro utilisation d'intrants chimiques de synthèse. Et après, je me suis installée moi-même. J'ai ma propre structure qui s'appelle le CEVAD, le Centre de valorisation pour l'agriculture durable, où j'ai ma petite exploitation de 4 hectares. Je fais l'élevage et le maraîchage agroécologique. J'élève les poulets bicyclettes de façon vraiment naturelle. Les poulets qui sont très résistants de chez nous. J'élève les lapins. Nous militons beaucoup pour une association des cultures. Par exemple, tu peux associer le maïs et le nébé. C'est comme du haricot. Je fais un peu de la tomate. C'est les légumes feuilles aussi, qu'on prend pour pouvoir faire de la sauce. Vous savez, notre alimentation de base au Bénin, c'est la pâte avec de la sauce. Ça peut être la sauce tomate, la sauce légumes. Actuellement, je me suis installée à Calavi.
Calavi, c'est en banlieue de Cotonou.
C'est en banlieue de Cotonou, exactement. Mais j'ai ma ferme à Ouida. Quand tu prends Cotonou, Ouida, c'est à peine 30 à 32 kilomètres. J'ai mon mari aussi qui est ingénieur agronome, donc du coup, on s'est associés pour créer notre structure.
Et pourtant, on vous a dit, ton premier mari, c'est le travail.
Oui, c'est toujours le travail. Et je milite vraiment pour ça. Partout où je passe, je parle de l'agroécologie. Toute la population, c'est-à-dire toutes les couches vulnérables, doit avoir accès à une alimentation saine. Ce n'est pas seulement les nantis qui auront droit à une alimentation saine. Pas du tout. Et ce qu'on a fait, on a installé un marché que je coordonne en ligne, un marché de distribution des produits agroécologiques. Et je publie les produits qu'on a de distribuer sur nos fermes, sur dans le réseau. on se concerte, on demande toi, tu as quel produit disponible et on publie ces produits sur ce marché en ligne.
Vous travaillez avec combien de fermes à Cotonou ?
3 à 4 fermes déjà.
Dont la vôtre ?
Dont ma ferme, Cévad, qui est à Ouida. Et déjà, en fin de semaine, on fait la livraison à domicile de ces produits à Cotonou et à Calavi. Et le consommateur a la charge de payer le livreur simplement. Et le coût de la livraison, c'est 500 francs, à peine 1 euro. Nous faisons la politique du champ à l'assiette, c'est-à-dire du champ au consommateur.
On peut voir ce groupe sur votre téléphone ?
Vous pouvez le voir sur WhatsApp. Vous allez voir ici, marché agroécologique. C'est un grand groupe, 142 consommateurs déjà. Au départ, on avait commencé avec 5. Tu vois, je publie.
Et vous, vous écrivez « Bonjour, chers amis du marché agroécologique. Oui. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour faire votre commande. »
C'est ça.
Et vous proposez du poivron à 100 francs l'unité, de la laitue 500 francs le pied.
50 francs le pied, de la marande 500 francs la botte, de la grande morelle 500 francs la botte. Donc du coup, ce n'est pas du tout cher.
Et après, comment vous faites en sorte que les personnes qui soient sur ce groupe WhatsApp soient des personnes modestes, puisque vous dites que c'est ça votre objectif?
Oui, c'est ça notre objectif. Quand on fait les émissions radio-télévisées, on sensibilise sur ça, qu'on a un groupe comme ça. On donne les numéros et les gens m'appellent pour dire « Inscris-moi sur le forum, inscris-moi, inscris-moi ». Donc ce sont les clients qui s'inscrivent automatiquement.
Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'Afrique qui gagne?
Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui adopte les pratiques respectueuses de l'environnement. C'est l'Afrique qui fait une agriculture vraiment naturelle, qui préserve la biodiversité, qui offre une alimentation saine aux populations à moins de coûts. Moi, je me bats vraiment, je milite beaucoup pour ça. Donc, je pense que l'agroécologie, c'est la bonne voie et c'est la meilleure.
Le portrait de Lidvine Balouacha, agronome béninoise, est bien sûr à retrouver dans notre série « L'Afrique qui gagne » en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Christine Aubry, une version moderne de l'agriculture urbaine, hein, on l'entend, en liaison directe avec les clients, grâce à un groupe WhatsApp, donc grâce au numérique. Si on devait résumer, quelles sont les conditions pour développer vraiment l'agriculture urbaine ?
Bon, je dirais qu'il y en a beaucoup, mais il y en a trois en particulier. Alors, je vais commencer un peu par ma propre chapelle, c'est-à-dire par la recherche agronomique. Et finalement, ce que vient de dire Lidwin est un très bon exemple, c'est-à-dire la qualification recherche et formation, hein, il faut arriver à faire l'inventaire correct de tous les espaces disponibles, et Dieu sait s'il y en a dans les villes africaines. Il faut arriver à faire aussi la qualification de ces ressources, à la fois en sol et en eau, on en a parlé tout à l'heure. Le lien avec les fertilisants, et notamment les fertilisants organiques urbains, qui sont une source potentielle dans les années qui viennent de lutte contre le prix des engrais, hein, qui est tout à fait important. Donc ça, c'est ce volet un peu recherche agronomique. Et le livre auquel vous faisiez allusion au début, sur les agricultures urbaines en Afrique francophone et à Madagascar, qui va paraître en 2023, donne la parole précisément aux doctorants africains. Il y en a beaucoup qui sont tout à fait intéressant.
Merci, ça sera pratiquement le mot de la fin. Merci beaucoup Christine Aubry, merci à vous Abouba d'avoir été en ligne avec nous et on se retrouve demain, même heure, même endroit.